Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour la matinée musicale comme d'habitude. Aujourd'hui, on retrouve nos invités. C'est pour le moment du 12-13, votre moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Alors aujourd'hui, on accueille Marie et Maria. Et je n'en dirai pas plus car elles sont membres des Alcooliques Anonymes. Voilà, et du coup, anonymes, on va en parler justement de cette anonymité, son importance et le sens que ça a dans votre organisation, c'est très important. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Voilà, on est content de vous recevoir, on va parler d'un problème important quand même dans la société. Faut pas se voiler la face, on est là pour ça. On va passer une petite heure ensemble et parler de ça, mais d'abord on va écouter le flash info national et international et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour avec nos invités. Alors, la tradition ici, c'est toujours commencer par une trajectoire personnelle, mais dans le cas présent, ça tombe sous le sens, puisque, le témoignage de ce que vous avez vécu, de qui vous êtes, est d'autant plus important par rapport au sujet qu'on aborde. Si vous bien parlez un petit peu de qu'est-ce qui vous a amené à être là maintenant, s'il vous plaît.
Alors, moi, je m'appelle Maria, j'ai 67 ans. J'ai rencontré les alcooliques anonymes à un moment où j'étais désespérée, il y a 22 ans, et où je ne savais pas comment faire pour arrêter de boire. J'étais au bout de ma vie, et puis j'ai vu une affiche sur une porte de magasin, et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais sentie seule avec cette maladie, parce que c'est une maladie.
Oui.
Et aujourd'hui, je suis abstinente depuis ce temps-là, depuis 22 ans, ma vie a changé complètement. Grâce aux réunions et grâce à l'entraide que j'ai trouvée aux Alcooliques Anonymes.
Très bien. Marie ?
Oui, bonjour, moi c'est Marie, j'ai 65 ans. J'ai arrêté de boire il y a 25 ans. Ça a été assez compliqué pour moi. J'ai fait beaucoup de passages à l'hôpital, aux urgences, en psychiatrie. J'ai découvert les Alcooliques Anonymes, mais j'étais tellement enfermée dans ma souffrance que je ne pouvais pas entendre ce qu'ils me disaient. Et un jour, j'ai quand même, à force d'insister de venir et de revenir, j'ai quand même commencé tout doucement à appliquer ce qu'on me conseillait. Et ça marche encore aujourd'hui, puisque ça fait 25 ans que je ne bois plus.
Bien, bravo, on va dire bravo mesdames déjà. C'est déjà remarquable. Alors oui, c'est vraiment intéressant d'avoir votre témoignage. Comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie, l'alcool, en fait, le stade de on boit un petit peu de temps en temps, enfin voilà, et puis tout à coup, à un moment donné, on se rend compte, mais non, c'est pas possible, c'est plus possible. C'est quoi ce trajectoire-là?
Alors, moi, c'est en sortant de l'environnement familial qui était extrêmement violent que j'ai trouvé une certaine liberté et qu'à ce moment-là, j'ai fait tout ce que j'avais pas pu faire jusqu'à 18 ans. Donc là, j'ai connu très rapidement l'alcool de façon importante. Et ça a commencé à déraper quand j'ai fait mes études, où j'ai bu tout de suite plus que la moyenne, plus que les autres, et je tenais mieux que les autres, et j'en tirais une certaine fierté. Et j'avais l'impression, en buvant, d'oublier un peu tout ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Une sorte de nuage rose, de coton, d'éloignement de tout ça.
D'accord. Et Marie ?
Moi, c'est un peu différent. J'ai été élevée dans une famille aimante. J'ai pas eu de gros traumas dans ma vie, mais du plus profond de ma mémoire, j'étais une petite fille qui était jamais heureuse, qui était soucieuse. Et j'ai découvert l'alcool à l'âge de 20 ans, vraiment très progressivement. Ça a commencé par une bière que j'ai de suite aimée, pas le goût mais l'effet. Et j'attendais ces moments où j'allais pouvoir être dans un état second, sans être encore dépendante bien sûr, puisque c'est une maladie progressive. Et en quelques années, je suis devenue dépendante. Il y a eu des coups durs dans ma vie, comme tout un chacun, et j'ai utilisé ce médicament. Voilà. Pour moi, c'était un médicament qui calmait mes angoisses. J'avais un profond mal-être dont j'avais aucune explication, mais le fait de boire l'alcool m'apaisait. Et à force de vouloir être apaisée, je suis tombée dans la dépendance et l'enfer, quoi.
Oui. Alors c'est vrai que moi, pour l'avoir discuté avec des soignants, effectivement, l'alcool fonctionne comme un antidépresseur, un anxiolytique fort, assez fort d'ailleurs, avec les inconvénients qui vont avec. Hein, donc c'est vrai que il y a cet aspect-là. Bon, parce que bon, voilà, on va peut-être choquer des gens parce qu'on est dans le Sud-Ouest, bien entendu. Donc du coup, ça n'a pas forcément mauvaise presse. L'alcool, c'est festif, ça fait partie un peu du décorum. Hein, voilà, c'est vrai. Mais voilà, c'est quand même une drogue. Ça peut l'être en tout cas.
Ça peut être une drogue dure.
Voilà, ça peut être une
drogue
dure. Autant
que l'héroïne.
Oui, c'est vrai. Et d'autant plus qu'on a découvert il y a quelques années qu'on n'est pas tous égaux. Et il y a des gens qui sont porteurs malheureusement d'un gène qui les rend définitivement beaucoup plus sensibles à cette addiction. Voilà.
En fait, il y a des personnes qui peuvent boire sans que ça pose problème. Mmh. Et puis, il y a les dépendants qui, quand ils commencent à boire, peuvent plus s'arrêter. Et moi, j'en fais partie. Ça veut dire que je ne suis pas capable de boire un verre ou deux verres.
C'est ça, oui.
J'ai besoin de plus. Quand je commence, j'ai besoin de beaucoup plus. Quelqu'un qui n'est pas dépendant, il va s'arrêter au bout de deux, trois verres. Il va profiter. Et il n'y a aucune raison pour que les personnes qui ne sont pas dépendantes ne boivent pas d'alcool.
Oui,
au contraire,
c'est
festif, effectivement. Mais dans mon cas, dans notre cas, c'était pour se péter la tête, quoi, pour plus réfléchir, pour plus penser.
Alors, on a écouté aux informations, on parlait de cette journée sans tabac. Bon, c'est le même problème. Il y a des gens qui sont capables de fumer une ou deux cigarettes ou trois par semaine, et puis il y en a d'autres, c'est un paquet ou rien, quoi. Et encore une fois, on n'est pas égaux par rapport à ça. C'est vrai qu'une cigarette ou deux, ça ne fait pas beaucoup de mal. Pourquoi arrêter ? Voilà. Mais voilà, c'est un peu la même problématique. Alors, le problème du tabac et de l'alcool, ce sont des drogues, mais en vente libre. Voilà. Donc, c'est le problème, c'est qu'en fait, vous y êtes toujours exposé à la possibilité d'avoir l'envie. Je ne sais pas si elle existe toujours en vous, lovée quelque part, ou si vous pensez que vous en êtes un peu débarrassé quand même de ça.
Alors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus d'envie, Dieu merci. Sinon, ça serait la torture mentale.
Oui.
L'alcool, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je suis dépendante. Mmh. J'ai une maladie qui s'appelle la maladie de la dépendance. Mmh. J'ai beaucoup fumé. J'ai arrêté il y a 3 ans. Mmh. J'ai beaucoup bu. J'ai arrêté. J'ai un gros souci avec le sucre. Pareil, quand je commence, c'est comme l'alcool, comme la clope. C'est pas un gâteau, ça va être le paquet.
Oui.
Donc, c'est moi, les alcooliques anonymes m'aident justement à réparer tout ça, à atténuer. Mais non, maintenant, je passe devant les rayons d'alcool, je participe à des soirées où il y a de l'alcool et franchement, j'ai assez d'armes, j'ai envie de dire, avec tout ce que j'ai appris en alcoolique anonyme pour ne pas sombrer dans cette envie. Si j'ai envie, je m'en vais. Mais Dieu merci, ça ne m'est pas encore arrivé.
Oui, ouais, mais ça, pas besoin de se battre tous les jours, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même une forme de torture. Enfin, voilà, vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est. Et c'est vrai que, alors vous parliez du sucre, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, on en parle de l'addiction au sucre. Et ça fait aussi partie des outils qu'utilisent certains industriels pour nous avoir, hein, quand même. Hein. Rajouter à tout va du sucre dans des produits transformés. Quand on regarde la doc, on se dit, mais pourquoi il y a du sucre là-dedans ? Ben, voilà, pour rendre dépendant de la même manière qu'il y a de l'ammoniac dans les cigarettes ou voilà, d'autres choses qui sont faites exprès. Parce qu'en fait, quelque part, quand on a une addiction, on se bat contre, pas que contre soi-même en fait, une partie de la société aussi.
Oui, moi ce que je voulais rajouter, c'est que cette maladie, moi je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire que je serai sensible à l'alcool jusqu'à la fin de ma vie. Moi, comme Marie, j'ai plus du tout envie. Ça fait très très longtemps que j'ai plus du tout envie et que le fait d'avoir de l'alcool autour de moi ne me dérange absolument pas, sauf quand je me trouve avec des personnes qui sont enivrées. Et à ce moment-là, je retrouve le discours de l'alcool. C'est l'alcool qui parle, c'est pas la personne. Et dans ces cas-là, c'est vrai, moi aussi, je m'en vais.
Ouais,
j'essaye toujours d'avoir un moyen de locomotion qui me
permette
de quitter une soirée avant le moment où le degré d'alcool devient désagréable pour moi.
Ouais.
Mais je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je serai sensible à cette substance. Et je suis prudente.
Oui.
Même après longtemps.
Ouais, ouais, je
la vigilance.
Et oui, parce que c'est précieux ce que vous avez réussi à acquérir. Cette liberté, elle est précieuse, il ne faut pas la perdre, risquer de la perdre, ça je comprends bien. Et puis en plus, voilà, ce que vous parliez, vous avez un regard extérieur par rapport aux gens qui boivent maintenant, ça ne doit pas être toujours très gratifiant, ça ne rend pas forcément très intelligent, même si ça donne l'impression qu'on l'est, mais ça ne le rend pas du tout. Donc c'est sûr que dans la vie sociale de tous les jours, vous aurez une position un peu... j'avais envie de dire, vous êtes le Sam de service, peut-être aussi, puisque vous ne buvez pas.
Exact. Voilà. Mais c'est pas dramatique. Enfin, moi, je sais que j'apprécie, je souris lorsque je fais des soirées où il y a beaucoup d'alcool autour de moi. Mais le matin, ils sont tous au Perrier ou au Coca.
Oui.
Et moi, je suis fraîche et là, je savoure le chemin parcouru et ce confort qu'est mon abstinence.
Oui, bien sûr. D'autant plus que vous avez arrêté et la cigarette et le tabac, la cigarette et l'alcool, pardon. Et donc, ça fait quand même une sacrée différence dans la santé d'une personne, quand même. En termes d'expérience de vie, mais aussi en termes de qualité de vie au quotidien. Ça, c'est, je crois qu'il n'y a pas photo pour ça. Alors, on va faire notre première pause et puis on va parler un petit peu des alcooliques anonymes. Et on va parler aussi de ce mot anonyme. Pourquoi ? Il y a une bonne raison à tout ça. Alors, on va parler un petit peu de cette organisation, les alcooliques anonymes. Alors, évidemment, moi, je tiens à dire que personnellement, je connaissais de nom. Mais évidemment, ça, vous l'avez dû l'entendre 10 fois, en France, on connaît ça super parce qu'on a vu ça dans tous les films américains, les séries. Ça, c'est un truc incroyable à chaque fois. Donc, on a toujours une idée de ce que c'est, mais vu des États-Unis, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi on en parle moins dans les films français ou les séries françaises. Culturellement, en tout cas, il y a quelque chose qui est différent. En tout cas, le traitement est différent dans la société, je pense, américaine et la nôtre. Et vous allez nous parler de la nôtre, de société.
Les alcooliques anonymes, c'est vrai, ça fait sourire souvent grâce ou à cause, je ne sais pas, de ces séries. Or, lorsque j'ai mis les pieds dans la première fois dans une réunion, je n'ai pas trop retrouvé en fait ce qu'on veut nous montrer.
Ouais.
Et on a un bon petit résumé de ce qu'est exactement ce mouvement. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc je rajouterai que nous avons encore, hélas, la réputation d'une secte.
Oui, oui.
On l'entend beaucoup.
Oui.
Ce à quoi je réponds, qu'une secte, c'est très facile d'y rentrer. Par contre, c'est très compliqué d'en sortir.
Oui, c'est le but. Hein.
Moi et plein d'autres adhérents des Alcooliques Anonymes ont eu beaucoup de difficultés à rentrer à leur première réunion. C'est quand même... il a fallu un chemin très, très douloureux avant d'oser demander de l'aide. Par contre... lorsque je suis arrivée en alcoolique anonyme, on ne m'a absolument rien demandé. Et je suis libre d'y aller, de ne pas y aller, de parler, de ne pas parler. Et c'est vraiment tout le contraire de la secte. Quoi. Oui. Sinon, j'y serais plus, bien évidemment.
Alors, c'est bien que vous en parliez, parce qu'effectivement, on peut avoir cette impression-là. Et alors, je vais vous dire même, j'ai vérifié sur Internet, il y a des organismes avec des publications, des signalements, etc., qui disent que non, les alcooliques anonymes ne sont pas une secte. Donc voilà, je confirme par d'avoir cherché de mon côté pour voir ce que la société en pensait aussi. C'est ça. Alors, anonyme, ça c'est important, cette notion d'anonymat.
Alors oui, l'anonymat, c'est une notion qui est extrêmement importante parce que l'alcoolisme, c'est un peu la maladie de la honte. Quand on est alcoolique, en tout cas moi, j'avais super honte, j'avais peur que les autres s'en rendent compte. Et quand je suis arrivée à la première réunion, on m'a juste demandé mon prénom, on m'a pas demandé combien je buvais, on m'a pas demandé quel était mon métier, quelle était ma situation. Et en alcoolique anonyme, il n'y a que des gens qui ont la même maladie. Peu importe que je vienne de la rue, que je sois avocat, que je sois mère de famille au foyer, ça n'a aucune importance, c'est la même maladie et c'est ce qui nous unit. Et c'est grâce à l'anonymat aussi qui fait que tout ce qui se dit au sein d'une réunion reste au sein de la réunion et ne sera pas répété à l'extérieur, qui permet de déposer des choses extrêmement intimes, extrêmement parfois violentes ou des choses dont on a honte. Et c'est grâce à ça, en se délestant petit à petit de toutes ces choses négatives qui sont à l'intérieur de nous, qu'on peut commencer à aller mieux avec cette protection de l'anonymat. Et c'est pour ça qu'on ne s'appelle que par nos prénoms et qu'on ne s'expose pas dans la presse, on ne s'expose pas à la télévision, de façon aussi à lutter contre éventuellement l'orgueil de se mettre en avant. On a beaucoup le principe d'humilité en alcoolique anonyme, c'est-à-dire je ne me mets pas en avant et j'aide les autres en me rétablissant.
Très bien. Alors, d'autant plus qu'au parler de la honte, évidemment, on en a parlé un petit peu en antenne, évidemment, forcément, des femmes, comme d'habitude, subissent toujours un traitement différent dans la mentalité de la société. Et c'est toujours une double peine, en général, d'être une femme. Et voilà, effectivement, c'est plus mal vu pour une femme que pour un homme, bien évidemment. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, je suppose que vous avez vous-même connu ça dans votre manière de gérer votre alcoolisme à l'époque où vous l'étiez, c'est-à-dire que vous aviez plus besoin de vous cacher qu'un homme ne l'aurait fait, en fait, j'imagine.
Oui, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais bu dans les bars. Je buvais seule chez moi, c'est-à-dire que j'amenais mes enfants à l'école. Et une fois que j'étais chez moi, je buvais pour calmer, comme je disais, ce fond d'angoisse et d'anxiété et de mal-être. J'ai eu, évidemment, je pensais que pas beaucoup de personnes étaient au courant, et en fait plein de monde avait remarqué que j'avais un souci avec l'alcool, et j'ai entendu évidemment ce genre de propos. Un homme, c'est pas, oh bah un homme, bon déjà c'est pas beau, mais alors une femme, en plus t'as tout pour être heureuse quoi, t'as trois beaux enfants, t'as une maison... Et lorsque je tentais d'expliquer que c'était une maladie, que c'était pas une histoire de fainéantise, de mauvaise volonté, ça passait pas. Le côté maladie ne passait pas du tout. J'étais une poivrotte, point, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et c'est ce que je dégageais, ceci dit.
Bon. Bah, très bien, on va faire une nouvelle pause. On va écouter le Flash Info local et on va continuer à discuter de tout ça parce que c'est intéressant et c'est poignant aussi en même temps. À tout de suite. Voilà, de retour. Alors, on parlait de ces réunions un peu. On les connaissait de manière un peu à travers le filtre du cinéma américain, ce qui est forcément un peu une déformation. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe concrètement, si vous voulez bien.
Alors, je parle de Dax puisque nous sommes à Dax. Nous avons des réunions tous les lundis soirs à 19h30, ça dure à peu près 1h15, 1h30. Celui qui arrive, Maria l'a bien précisé, on lui demande rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier d'inscription à remplir, il n'y a pas de frais d'adhésion. On l'accueille avec beaucoup de bienveillance parce que on sait très bien ce qu'il est en train de traverser ou ce qu'elle est en train de traverser dans le sens où nous sommes passés par ce chemin de souffrance. Donc on lui conseille d'abord de nous écouter, et s'il veut, après il prendra la parole. Donc nous animons chacun notre tour, il n'y a pas de chef, c'est chacun notre tour, on modère la réunion. Ça commence par un texte sur la présentation des alcooliques anonymes, ce que j'ai lu tout à l'heure. Après, nous passons, le modérateur ou la modératrice passe la parole à chacun des membres autour de la table. On est autour de table avec du café, des bonbons, de l'eau, des tisanes, du thé. Et la personne parle de ce qu'il vit actuellement, s'il le désire. Bien évidemment, il n'y a absolument rien d'obligatoire en alcoolique anonyme. La personne qui a envie de parler, parle. Celle qui n'a pas envie de parler, ne parle pas. On ne va pas insister, on respecte. Et après, nous parlons, nous échangeons autour d'un thème que nous avons décidé à l'avance. D'un thème, en fait, qui peut nous aider à réparer le gros chantier, si je puis dire, qui fait qu'on s'est tourné vers la boisson. Donc, il y a des thèmes comme... la bonne volonté, la colère, le ressentiment, tous ces l'ego. L'ego a beaucoup de place chez l'alcoolique, ça on le sait. Donc ce sont des moments sérieux, certes, très sérieux, où la parole de chacun et respecté, où le modérateur est le gardien du temps. Mmh. Et malgré ce côté extrêmement sérieux, je tiens à dire que c'est quand même un endroit où moi je rigole beaucoup. Mmh. Nous avons beaucoup d'autodérision de nous-mêmes. Mmh. Lorsque nous parlons de nos souvenirs dans la boisson, c'est souvent de façon très dérisoire. Et franchement, on a une telle joie d'être sorti de là qu'on en rigole beaucoup. Mmh. Et il y a des rassemblements, des fois au niveau régional, au niveau national, des congrès, des conventions. Et je peux vous garantir que dans les couloirs ou dans les moments pause-café, énormément d'éclats de rire. Mmh. Il y a une joie de vivre qu'on a tous retrouvée et qu'on est obligé d'exprimer. Mmh. On sort de l'enfer, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Cette maladie, c'est quand même une histoire de vie ou de mort.
Oui.
Donc, on revient de très loin. Enfin, moi, personnellement, je reviens de très, très loin. Donc, oui, on en rit.
Ouais, bien sûr, bah, heureusement, hein, on dit que ça soigne pas mal de choses le rire, mais peut-être justement que le fait que vous arriviez à rire sans avoir bu, parce que souvent on utilise l'alcool quand même comme euphorisant, comme déstressant, etc. Voilà, pour faciliter un petit peu la fête, mais si vous arrivez à rire sans en avoir bu, ça veut dire que vous avez passé un cap très important, c'est un bon signe.
La preuve étant que cette année, nous avons fait un réveillon ensemble à Mont-de-Marsan. Mmh. Il y a un groupe aussi à Mont-de-Marsan. Il y a plusieurs groupes, de toute façon, dans la région. Et nous avons... le groupe de Mont-de-Marsan tenait une permanence téléphonique parce que nous faisons ça aussi. C'est-à-dire que nous répondons chacun notre tour au téléphone lorsqu'un quelqu'un a un problème d'alcool. Mmh. Et donc, ce groupe tenait la permanence et... à organiser un réveillon, donc ben, évidemment entre alcooliques, et ben, je peux vous garantir que c'était extrêmement joyeux et qu'on ne boit plus certes, mais qu'est-ce qu'on mange bien entre nous.
Ça par contre, il ne faut pas arrêter quand même.
On est très doués dans la matière.
D'accord, très bien. Bon, il faut quand même trouver du plaisir, hein, y a pas... c'est normal. Et alors justement, vous êtes l'antenne de Dax, donc il y a une structure quand même, il y a ces départements, après il y a national... Et après,
Les groupes locaux, comme ici donc à Dax, il y a Mont-de-Marsan, il y a Pau, il y a Bayonne, il y a Anglette, il y a Orthez. Après, il y a ce qu'on appelle la région et ensuite le national.
D'accord.
Mais bon, ça c'est le côté un peu compliqué.
Ah bah c'est dans les fédérations, dans les grosses structures comme la vôtre, c'est toujours subdivisé comme ça, c'est logique. Mais au départ, c'était américain, il y a une structure nationale. Est-ce que vous êtes aussi connecté à elle d'une manière ou d'une autre
Tout à fait, oui. Ça vient effectivement des États-Unis. Mm-hmm. Hein, deux messieurs, Bill et Bob, qui avaient tous les deux, en 1935, des gros soucis d'alcool. Mm-hmm. Bon là je fais un très très bref résumé, mais n'empêche que ça vient de ces deux personnes qui, lorsqu'ils parlaient de leurs problèmes et de leurs souffrances dues à l'alcool, ont vite remarqué que ça leur apportait beaucoup mutuellement, et surtout c'est que lorsqu'ils en parlaient, ils ne buvaient pas.
Et oui.
Donc de là, ils ont été chercher un troisième alcoolique, un quatrième, un cinquième, etc. Et il y a eu des groupes aux États-Unis. Et en France, le premier groupe est arrivé en 1960 au Quai d'Orsay à Paris. Et depuis, ça fait plein de petits, quoi. Je crois qu'on est plus de 500 groupes en France.
Ah oui.
Et sachant que ça date de 1935, je pense que ça parle de soi-même, que ça fonctionne. Ça fonctionne.
Oui, apparemment,
ça marche.
Oui.
Ça marche.
En parlant de date aussi, vous aviez vous fêtiez les 65 ans. Il y avait une célébration au niveau national. C'était dans la région parisienne, je pense.
Oui, c'était à Bobigny, c'est ça. Où là, donc, tous les alcooliques anonymes de France et même d'ailleurs, on croise souvent des amis belges, suisses, dans ces congrès. Donc, c'est un rassemblement de tous les alcooliques anonymes avec aussi... un regard vraiment vers l'extérieur, à savoir nous faire connaître auprès des professionnels de santé, au niveau des entreprises, au niveau de la justice aussi. Mmh. On essaie de se faire connaître dans tous ces milieux-là, en fait, où on peut apporter notre aide. Mmh. Donc, il y a toujours un petit moment où des professionnels sont invités et où il y a un échange avec les alcooliques anonymes et aussi évidemment notre présidente, notre vice-président. Le vice-président est un alcoolique, mais pour être prévoyant, la rechute peut concerner tout le monde. Donc nous avons une présidente qui, elle, n'est pas alcoolique.
D'accord. Ah oui, oui, d'accord, vous avez prévu une double tête avec... Oui, d'accord, je comprends, je comprends. Vous avez une autonomie complète, pas de subvention pendant l'intervention extérieure, tout repose sur les membres eux-mêmes, par leur cotisation ou non qu'ils donnent. Et ça, c'est, cette indépendance est importante aussi.
Oui, nous sommes malades de la dépendance, donc nous voulons être autonomes et être indépendants même financièrement. Nous refusons toute subvention. Nous acceptons des legs, mais vraiment c'est limité, je ne sais plus, mais je crois que c'est 1500 euros, pas plus, mais d'accord. Sous réserve, je ne suis pas sûre de la somme. Et en fait, nous faisons tourner un chapeau, on appelle ça le chapeau, en fin de réunion, où chacun donne ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Une fois de plus, il y a une liberté là-dedans.
Oui, c'est important. Ouais.
Donc chacun met... Sa propre petite contribution.
Bien sûr. Alors, il y a un sujet là que j'aborde avec beaucoup de gens qui viennent, c'est l'année 2020, le confinement. Ça a dû être quelque chose de plus complexe, parce que plus de réunions. Alors, le téléphone, les visios, comment est-ce que vous avez fonctionné à ce moment-là pour garder le lien? Parce qu'on a bien compris que ce lien, il est important.
Oui, bah, tout à fait. Toutes les salles ont fermé en même temps. Et donc, très rapidement, se sont mises en place des réunions en visio. Qui rassemblait parfois jusqu'à plus de 100 membres par réunion. Ça s'est mis en place d'une façon incroyable et grâce à ça, il y a des personnes qui ont même pu arrêter de boire sans venir en
pas
présentiel.
Évident quand même, hein. Pas évident.
C'est incroyable comment ça a marché même à distance.
Et oui.
Ce soutien permanent et ces visios, elles continuent actuellement sur le site AA France. On peut les trouver très facilement. Il y a des réunions tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à 11h du soir. Donc, c'est un outil, en plus de l'outil qu'on utilise souvent, on dit RTL, réunion, téléphone, littérature.
D'accord.
Je ne veux pas faire concurrence à la radio,
non,
mais
non.
RTL.
Non, c'est vous, nous, c'est souvenir.
donc, réunion, faire le plus de réunions possible, parce que moi, quand j'ai arrêté, je buvais surtout le soir, et donc j'allais en réunion le soir, ce qui me permettait de ne pas avoir envie de boire et de pouvoir tenir jusqu'au lendemain. Téléphone, il est suggéré d'appeler quand on a un craving, une envie de boire, avant de boire, parce que sinon, évidemment, c'est encore l'alcool qui parle. Et en réunion, lors de la première réunion, on m'a donné des numéros de téléphone que je pouvais appeler à n'importe quel moment.
D'accord.
Et elle, de littérature, on a tout un tas de petits fascicules et de livres qu'on peut consulter pour pouvoir entamer ce rétablissement personnel qui nous permet de changer de vie et qui nous permet aussi d'éloigner tout ce qui nous a amené à boire. Et la dernière chose que je voulais dire sur les outils qu'on utilise, c'est les 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire « j'arrête de boire jusqu'à la fin de ma vie », c'est impensable.
Ouais, jusqu'à demain.
Mais j'essaye juste de boire, de pas boire aujourd'hui.
Oui.
Et demain, je verrai. Et moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de boire, un jour à la fois.
Jour après jour. Hein.
Le 1er janvier 2003, j'avais une gastro-entérite, j'ai vomi et j'ai eu de la diarrhée toute la journée, en plus de ma gueule de bois. Et je me suis dit, j'ai pas bu aujourd'hui, et ben demain je vais essayer de faire pareil. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça s'accumule, sans se projeter au-delà, juste en essayant aujourd'hui d'aller mieux pour que je sois capable de pas boire aujourd'hui et donc de pouvoir continuer demain.
Très bien, ben merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vraiment très très intéressant. Puis voilà, c'est un côté un peu émouvant quand même de savoir voilà ce que vous avez traversé et vous êtes là. On va faire notre dernière pause et ensuite ça sera la conclusion de cette émission. On parlera encore de l'actualité. Il y a encore des choses qu'il y a à dire et on se retrouve après ça. Comment est-ce qu'on vous trouve et où c'est, parce que maintenant que des gens, nos auditeurs ont entendu que le mur de la honte peut être dépassé. Puisque vous êtes venu, vous avez vu nous en parler, vous avez fait votre témoignage. Je pense que ce serait bien qu'il y ait des gens qui vont prendre leur courage à deux mains et venir vous voir.
Oui, on les invite. Ils seront très, très bien reçus. Donc, c'est une fois par semaine. C'est le lundi à 19h30. C'est dans les locaux de la Croix-Rouge, à côté de la place de la Chalosse. Exactement, c'est aux 2 rue des Ateliers à Dax. C'est juste à côté de la gendarmerie, en fait. C'est dans les locaux de la Croix-Rouge. Et il faut savoir aussi, c'est que ces réunions, donc, sont réservées vraiment aux malades alcooliques. Mais il y a une fois par mois, c'est le 3e lundi du mois, la réunion, on appelle ça une réunion ouverte. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. Enfin, tout le monde. Évidemment, c'est très souvent des conjoints, des enfants, mais aussi des professionnels. Des addictologues, des infirmières, des psychologues, enfin peu importe. Donc c'est une fois par semaine, ça dure une heure, un quart, entre une heure, un quart, une heure et demie, ça dépend si on reste après pour discuter un peu. Justement, lorsqu'il y a un nouveau ou une nouvelle, on reste un peu. Après, on le prend en particulier, on lui explique certaines choses.
Oui, je comprends bien.
Mais la honte, il faut savoir que la personne qui hésite encore à venir, elle va rencontrer des personnes comme elle, avec la même maladie. Et elle n'aura plus raison d'avoir honte. Et surtout, elle ne sera plus jamais seule.
Oui, oui, parce que là, c'est important. C'est important d'être plusieurs, de rencontrer des gens, de ne pas se sentir seule, effectivement.
Et en attendant de venir, il y a aussi, c'est important de souligner qu'on a une permanence téléphonique de 8h le matin jusqu'à 2h du matin. Je vais vous donner, je vous communique le numéro national qui est le 09... 69 39 40 20. La personne peut appeler, elle sera extrêmement bien reçue, très bien. À n'importe quelle heure.
Et alors, vous avez aussi une actualité ? On en a parlé un petit peu en antenne.
Oui, tout à fait. Le week-end prochain aura lieu la convention de la région Midi-Pyrénées, les 8 et 9 novembre. Et cette convention aura lieu dans les Hautes-Pyrénées, à Montaigu. Le bulletin d'inscription figure sur le site de AA France et c'est peut-être l'occasion de venir découvrir ce que sont les alcooliques anonymes.
Bien sûr. Joyeux. Alors sur le site, sur le podcast, bien sûr, je mettrai un lien vers votre site que les gens puissent se rendre directement sur votre site qui est relativement bien fourni tout de même. Il y a des vidéos YouTube aussi de presque une demi-heure. J'en ai regardé une avec des témoignages, plein de gens qui disent voilà ce que ça m'a apporté, voilà. Qui témoigne à visage couvert, bien entendu, voilà, puisque c'est cette notion d'anonymité est importante, puisque voilà, c'est comme ça. Et en plus, ça permet d'éviter d'être tiraillé, d'avoir des problèmes. Il vaut mieux pas. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes venu nous voir, en tout cas, à la radio, voilà. Et ça nous fait plaisir. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, félicitations, mesdames, bravo pour. Avoir réussi à gagner ce combat et en plus consacrer maintenant votre énergie à aider les autres, hein, sachant que vous avez vous-même traversé l'enfer. Hein, voilà, merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup de nous permettre d'en parler.
Merci.
Merci, au revoir.